RFI Matin, suite F1, dans moins de 20 minutes, le journal de Martin Guez et les libérations de prisonniers palestiniens par Israël. À nouveau à la une, sur 200 personnes remises en liberté hier, 70 sont parties vers l'Égypte. Et on retrouve Alexandre Bouchanti au Caire à 8h, temps universel. À suivre d'ici là, notamment les 80 ans de la découverte du camp d'Auschwitz et de la libération des derniers rescapés demain lundi. À la veille de cette date symbolique, on se penche sur une question cruciale, alors que les survivants sont de moins en moins nombreux. Comment enseigner la Shoah pour préserver sa mémoire? Ce sera dans le tour du monde des correspondants. Mais tout de suite, les sports. Avec vous, Christophe Diremzian, du football. Et les buteurs africains de Premier League ont déjà été très inspirés lors du début de la 23e journée.
Oui, on peut le dire notamment du Burkinabé de Bornouf, Dango Ouattara, qui a fait passer un sale après-midi au 3e Nottingham Forest, battu 5-0 en inscrivant un triplé. De son côté, Liverpool garde son rythme de solide leader en infligeant un 4-1 à Ipswich avec un but de Mohamed Salah au passage. Mention spéciale également pour le Sénégalais d'Everton, Illiman Diaye, qui a transformé un pénalty décisif juste avant la pause sur la pelouse de Brighton. Ce précieux 1-0 permet aux Toffees de sortir de la zone de relégation. Suite du programme aujourd'hui, avec notamment le déplacement de Manchester United à Fulham, des Mancuniens munis d'un précieux atout cette saison, l'Ivoirien Amad Diallo, 9 buts et 7 passes décisives en 31 matchs pour l'ailier de 22 ans qui fait l'admiration des supporters des éléphants, en particulier à Adjamé Château d'Eau, son quartier d'origine à Abidjan, où s'est rendu Yoann Gourlay.
À la Leader Foot Academy, les jeunes pépites de la commune d'Adjamé s'entraînent dans la rigueur et la bonne humeur. Tous veulent évidemment suivre les traces de la star de l'académie, Amad Diallo, comme Habib Ben Kamagaté, 16 ans.
C'est une icône du football ivoirien. En plus, jouer dans le même académie que lui, ça motive et ça encourage à jouer comme lui. Forcément, je suis fier.
À l'époque, Amad Diallo est recruté par l'académie dès l'âge de 8 ans, lors d'un tournoi de quartier. Il n'est alors pas le meilleur de la Leader Foot, mais est décrit comme un joueur rapide et appliqué. Alors que sa famille a des difficultés financières, le jeune Amad quitte la Côte d'Ivoire pour l'Italie à l'âge de 12 ans avec son coéquipier Ahmed Junior Traoré qui évolue aujourd'hui à l'AJ Auxerre et Ahmed Mamadou Traoré, oncle de ce dernier, est président de l'académie.
Les enfants, ils partaient à l'école, ils faisaient les loisirs. Il y a la Juventus qui était intéressée, il y a Rome qui était intéressée. Le club même, c'était prêt, mettait beaucoup d'argent. Amad a proposé Juventus. Ben, il dit pour moi, rien de tout cela. Toi, tu vas à Atalanta. Les gens, ils sont prêts à donner beaucoup d'argent, mais ici... L'argent, ça se gagne après.
Une histoire avec son pays d'adoption controversée puisqu'il a été épinglé par la justice italienne en 2021 pour avoir falsifié ses papiers d'identité afin de se rendre en Italie. Il y a indiqué qu'il était le frère d'Ahmed Junior Traoré et le fils du président de l'Académie. Aujourd'hui, tout le monde veut tourner la page et Amad Diallo semble libéré de ses tracasseries. La pépite ivoirienne vient même de prolonger avec Manchester United jusqu'en 2030. Yoann Gourlay, Abidjan, RFI.
À la une également le mondial masculin de handball, un dernier effort pour l'Égypte en vue d'une qualification pour les quarts de finale.
Pas le plus gros a priori puisque les champions d'Afrique disputent leur dernier match du tour principal à Zagreb contre le Cap-Vert qui n'a déjà plus rien à espérer. Mais dans le contexte d'une lutte à 3 pour 2 places avec la Croatie et l'Islande également en lice contre des nations hors course, il s'agit de rester sérieux, surtout que les Cap-Verdiens aimeraient bien quitter la compétition avec fierté malgré le niveau élevé de l'adversaire, ce que reconnaît aisément le pivot Paulo Moreno au micro de Marco Martins.
Les Égyptiens auront besoin de ces points. Ils vont tout mettre dans ce match. C'est une équipe avec d'énormes qualités et cela va nous donner beaucoup de travail. Même les équipes européennes ont beaucoup de mal à les affronter. Nous avons conscience de la qualité qu'ils ont, mais il faut essayer d'équilibrer le jeu autant que possible. Faire un adieu digne pour nous, les joueurs, le staff et surtout pour tous ceux qui nous soutiennent au Cap-Vert et à l'étranger. Nous devons sortir la tête haute de l'épreuve et faire honneur à notre pays.
Paolo Moreno avec le Cap-Vert pour un baroud d'honneur face à l'Égypte dans ce mondial de hand, coup d'envoi 17h, temps universel. Hier à Herning, au Danemark, la Tunisie, elle aussi déjà éliminée, s'est nettement et logiquement inclinée 31-19 face à l'Allemagne, vice-championne olympique en titre.
Enfin, le basket et la belle revanche des Indiana Pacers sur les San Antonio Spurs lors du second match délocalisé de la NBA à Paris.
Victoire 136-98 après un revers tout aussi cinglant jeudi, 140-110. L'un des grands artisans de ce succès, c'est Pascal Siakam, l'ailier camerounais, 23 points et 11 rebonds. Prochain match des Pacers dans la nuit de mercredi à jeudi, sur le sol américain évidemment, contre les Pistons de Détroit. Les Spurs, eux, recevront au même moment les Clippers de Los Angeles.
Merci Christophe Diremzian.
RFI Matin.
C'est une porte sur l'enfer qui s'est ouverte dans nos consciences et qui ne s'est jamais vraiment refermée. Demain, lundi 27 janvier, marquera le 80e anniversaire de la découverte du camp d'Auschwitz et de la libération des derniers escapés par les soldats de l'Armée Rouge, le camp de concentration et d'extermination le plus connu de l'histoire de la Shoah, où les nazis ont assassiné plus d'un million de juifs en seulement 4 ans. 80 ans plus tard, les survivants sont de moins en moins nombreux à pouvoir témoigner. Alors comment continuer de transmettre cette mémoire? Dans notre tour du monde des correspondants ce matin, on aborde un aspect crucial de cette question, celui de l'enseignement de l'histoire de la Shoah, très différencié de par le monde. Un enjeu forcément important en Israël, où chaque année le pays se fige pendant 2 minutes en mémoire des victimes. Et Michel Paul, c'est dès le plus jeune âge que les Israéliens sont exposés à cette période de l'histoire.
Sa place est centrale dans la mémoire collective du pays, l'éducation à la Shoah, et sans aucun doute un pilier fondamental de l'identité nationale israélienne, un enseignement qui se caractérise par une approche multiforme et globale, de la maternelle jusqu'à l'université. Au cœur de cette pédagogie Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste à Jérusalem, mais aussi une intégration dans tous les programmes scolaires. Pratiquement tous les élèves israéliens visitent des sites commémoratifs, tels que le camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne, mais les témoignages de survivants se font de plus en plus rares. Et c'est pourquoi désormais l'accent est mis sur la transmission de la mémoire de cette tragédie aux générations futures.
Michel Paul, à Jérusalem, on part à présent au Rwanda. Quelle place pour la mémoire de la Shoah dans le pays du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994? Plus de 800 000 personnes assassinées en une centaine de jours. Lucie Mouillot, ici, l'accent est mis notamment sur les mécanismes communs à ces deux génocides.
Dans le mémorial national de Gisozi à Kigali, 2 salles sont consacrées à la Shoah. La première sur l'histoire de l'Holocauste et la seconde sur le camp d'extermination de Treblinka. Le guide audio détaille les similarités entre les deux génocides. Comme pour les Juifs en Europe, un processus de déshumanisation se met en place au Rwanda avant 1994. Les Tutsis sont qualifiés d'insectes, d'inyenzi, de cafards en Kinyarwanda. Des qualificatifs physiques comme la longueur du nez sont utilisés pour les décrire. Un processus qui rappelle la propagande nazie contre la population juive. Dans les deux cas, des systèmes sont mis en place pour reconnaître les communautés ciblées. L'étoile jaune en Allemagne et la carte d'identité indiquant la classe Tutsi, Hutu, Hutua au Rwanda, à l'origine instaurée par les colons belges. Plus de 250 000 victimes du génocide contre les Tutsis reposent au mémorial de Gisozi, un mémorial géré par l'ONG britannique Aegis Trust, également responsable du Centre et Musée National de l'Holocauste au Royaume-Uni.
Lucie Mouillot à Kigali. Et quand la mémoire de la Shoah est convoquée par l'actualité, cap sur les Pays-Bas, marqué au mois de novembre par une explosion de violence à Amsterdam, en marge d'un match de football entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv, des supporters du club israélien violemment agressés dans les rues de la ville au terme de 24 heures de montée des tensions, avec notamment des chants racistes entonnés par certains d'entre eux. Plusieurs dirigeants avaient dénoncé dans la foulée un pogrom, mais au pays d'Anne Frank, l'enseignement de la Shoah ne suit pas de programme imposé. Il semble d'ailleurs avoir du mal à toucher les jeunes, Pierre Benazet.
Aux Pays-Bas, la persécution des Juifs pendant l'occupation nazie, c'est un objectif de l'enseignement secondaire, mais selon l'étude d'une ONG, le niveau de connaissance des élèves est plus élevé sur l'occupation que sur la Shoah, un reflet de la difficulté que les Néerlandais ont eu à faire face à leur rôle pendant cette période. 15 ans après la guerre, une commission officielle a établi que sur 140 000 Juifs recensés en 1940, moins de 30% ont survécu, alors qu'on tourne autour de 80% en France et en Italie. Sur plus de 100 000 Juifs des Pays-Bas victimes de la Shoah, deux ressortent particulièrement du fait de la publication après leur mort de leurs journaux intimes, l'enseignante Etty Hillesum, morte à Auschwitz, et bien sûr l'écolière Anne Frank, dont la maison à Amsterdam attire plus d'un million de visiteurs par an. Malgré tout, une enquête pointait il y a 2 ans que plus de la moitié des Néerlandais ignoraient que la Shoah avait fait 6 millions de victimes, et un tiers des jeunes ignoraient qu'Anne Frank était morte dans un camp de concentration.
Pierre Benazet, et puis comment enseigner la Shoah dans un pays où de nombreux criminels nazis ont trouvé refuge à la fin de la guerre, dernière étape au Chili, où les témoins sont comme partout de moins en moins nombreux. Alors comment en parle-t-on, Marion Bellal ?
Eh bien, le Chili mise tout sur le partage oral des survivants, puisque c'est moins su, mais le pays a également accueilli entre 13 et 15 000 juifs fuyant l'Europe. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une dizaine de personnes juives au Chili qui ont vécu l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, dont seulement 2 qui acceptent de raconter leurs souvenirs dans les écoles de la capitale. Il s'agit de Rudy Hyman, 103 ans, et d'Anna Maria Varenberg, 94 ans. Pour la directrice du musée interactif juif de Santiago, le fait que ces deux survivants aient vécu la Shoah en tant qu'enfants ou adolescents est un avantage pour réussir à créer un lien avec les jeunes Chiliens, puisqu'ils avaient alors à peu près le même âge qu'eux aujourd'hui. Il semble en effet difficile d'intéresser les écoliers car la Shoah leur semble très loin, aussi bien dans le temps que dans la géographie. Pourtant, les professeurs et les institutions ne cessent de faire des ponts entre l'usage de la torture et les violations des droits humains sous la Seconde Guerre mondiale, et ce, sous la dictature de Pinochet.
Marion Bellal au Chili et les 80 ans de la libération d'Auschwitz à suivre demain sur RFI dans une journée spéciale, avec notamment l'invité d'Arnaud Pontus, l'une des dernières survivantes françaises, Ginette Colinka, aux alentours de 6h15, temps universel.
RFI Matin.
En marche ce dimanche. Portrait d'un talent de l'architecture au Mali. Mariam Sy est l'une des figures de la discipline en Afrique de l'Ouest avec ses bâtiments qui allient la modernité et les techniques ancestrales de construction à base de terre. Une façon de construire adaptée au climat subsaharien et respectueuse de l'environnement, Frédéric Gara.
À 15 ans, j'ai dit à mes parents, je veux être architecte. Ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Et j'ai dû sortir de l'école de jeune fille pour aller faire un lycée professionnel à Bamako.
Après ce lycée technique, Mariam Sy obtient son diplôme d'architecte en Belgique et enchaîne une formation complémentaire en France, à Grenoble. Mariam, devenue aujourd'hui l'une des références en matière d'architecture traditionnelle, c'est d'ailleurs à Grenoble, au centre de recherche et d'application en terre, le Cratère, que cette quadragénaire a perfectionné son savoir-faire avec l'usage des matériaux traditionnels.
Que ce soit la terre, la pierre ou tout ce qu'on peut trouver localement, l'idée c'est vraiment d'utiliser le moins d'énergie possible pour construire et d'utiliser avec le matériau adéquat pour la température du lieu. Et il s'avère qu'au Mali, la terre est un des matériaux locaux les plus répandus et les plus connus. L'avantage pour nous, sahéliens, c'est un matériau qui s'adapte vraiment à notre climat.
Dès lors, à Bamako, Mariam Sy, au sein de son cabinet architecte, multiplie les constructions de maisons ou de centres médicaux, mais aussi la rénovation de mosquées, notamment à Tombouctou, une technique architecturale qui séduit de plus en plus de clients au Mali, mais aussi en Afrique.
Cette question d'architecture éco-responsable, c'est une question qui concerne tout le monde, même si au Sahel, on sait qu'on n'a pas les plus gros consommateurs d'énergie, on subit quand même les conséquences de cela. Donc, il est important qu'on prenne en compte aussi les nouvelles technologies, les questions qui se posent à tout le monde et qu'on se l'applique à nous.
C'est presque un acte militant que vous faites en étant architecte.
Bien sûr. On considère que voilà, nous sommes des militants au niveau du réseau FACT Sahel dont je vous ai parlé. Pour nous, vraiment, le travail qu'on fait, c'est du militantisme.
Ouais. Dans ce réseau, il y a des architectes, mais pas que des architectes.
Non. Il y a des maçons, des ingénieurs, des architectes, des étudiants, des chercheurs, des écrivains. Vraiment, on est un réseau.
Il y a toute une réflexion autour de ces enjeux-là.
Voilà, de comment expliquer aux gens le retour donc à ces matériaux et qui ont vraiment beaucoup beaucoup d'avantages sur beaucoup d'aspects de la vie, pas seulement sur la construction.
Au sein de l'association FACT Plus qu'elle a cofondée, Mariam Sy participe à cette réflexion à propos d'un retour aux techniques africaines de construction adaptées à un monde moderne, ce qui correspond à un mouvement de fond, comme l'explique un autre architecte français, Jean-Marc Lalot, qui organise régulièrement sur le continent africain des séminaires d'échange entre architectes des deux continents.
Il y a à la fois une question d'identité architecturale africaine, un engouement pour retrouver des techniques traditionnelles de construction en terre. Et puis la deuxième chose, c'est aussi un des points d'avenir de l'Afrique, c'est de faire un saut directement vers des constructions avec des matériaux biosourcés, des matériaux locaux. Et la terre est parfaitement adaptée à ça, en fait. En fait, il y a eu plusieurs architectes africains qui ont beaucoup travaillé sur ces points. Hassan Fathi, par exemple, en Égypte, avait beaucoup lancé en fait ses projets en fait autour de la construction en terre. Mais par contre, depuis que Francis Kéré a reçu le prix Pritzker, il y a des choses qui bougent. Il y a des pays qui mettent ça en avant, qui veulent effectivement aller vers cette direction-là. Je pense au Bénin, le Sénégal. Alors, il y a le Maroc aussi, je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Il y a un centre de la construction en terre au Maroc qui a été ouvert il y a quelques années. Et puis le Bénin, le président a fait quelques commandes à Francis Kéré, donc à l'Assemblée nationale, qui était basée beaucoup sur l'utilisation de la terre, avec le BTC
la brique de terre comprimée. Et là, on le retrouve au Mali, au Sénégal, à Burkina Faso aussi.
Prochain projet pour Mariam Sy, qui allie modernité, usage des techniques traditionnelles et conception éco-responsable, un centre scolaire en terre à Bamako, histoire que l'architecture durable continue de faire école au Mali.
Frédéric Gara pour l'Afrique en marche avec l'architecte malienne Mariam Sy. RFI Matin touche presque à sa fin. Et avant de nous dire au revoir, un peu de musique. Elle s'appelle Océane. Elle vient de Suisse et son nouveau single Cadillac est dans la sélection du mois d'RFI. Dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Voilà, RFI Matin se termine pour aujourd'hui et merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation. Demain, vous retrouvez Andréane Mellard à partir de 5h, temps universel. Très bon dimanche sur la Radio du Monde.
Le Centre Pompidou-Metz présente l'exposition « Après la fin, carte pour un autre avenir » du 25 janvier au 1er septembre. Au programme, 40 artistes internationaux autour de récits nouveaux et ancestraux, populaires et modernes, traversés par l'histoire coloniale et post-coloniale. « Après la fin, carte pour un autre avenir » à partir du 25 janvier. Plus d'informations sur centrepompidou-metz.fr. En partenariat avec RFI.
My French Film Festival, le premier festival de cinéma francophone entièrement en ligne, revient du 17 janvier au 17 février. Retrouvez le meilleur du jeune cinéma francophone à travers une sélection de 20 films sous-titrés en 8 langues, disponibles dans le monde entier et gratuits dans de nombreux pays. Rendez-vous sur myfrenchfilmfestival.com pour découvrir les films et de nombreux contenus exclusifs. My French Film Festival, du 17 janvier au 17 février, en partenariat avec France Média Monde.